À la suite de ce métier qui s'est perdu dans la période de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-Deuxième Guerre mondiale, des fabricants qui ont dû s'adapter. Donc beaucoup d'ateliers de charronnage sont devenus des menuiseries. Et puis pour les autres, ils se sont convertis sur le matériel, principalement matériel agricole. Et puis quelques-uns sur la carrosserie automobile. Donc dans les années 10 jusque dans les années 40, les voitures c'était des châssis bois recouverts de carrosserie en tôle clouée sur le bois. Et puis il y a aussi eu l'avènement du train où là pour les premiers wagons pour transporter des voyageurs, on prenait des caisses de calèches qu'on mettait sur des wagons à plateau quoi.
Il y a énormément de passion hein, dans vos propos, vous connaissez toute l'histoire du charronnage. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une tradition dans votre famille? Enfin, vous avez sans doute été bercé d'une façon ou d'une autre dans ce genre de métier, non?
Alors, pas du tout, pas vraiment. Ouais, là, dans les familles, il y a toujours un peu les moutons noirs, je dirais. Alors, pour moi, l'histoire, voilà, moi j'ai grandi région lausannoise, à Chavannes, près Renan, dans un grand immeuble de 64 appartements, mais entouré de verdure, une rivière. Quand j'étais petit, il y avait un champ de maïs autour, des vaches, enfin voilà, c'était la forêt à proximité. Donc le lac, beaucoup de possibilités d'évasion, de pouvoir aller à la pêche ou en forêt et tout. Mais dans ma famille, mes oncles, mon père et tout ça, sont essentiellement des gens, des employés de la Confédération, Poste, CFF et compagnie. Donc c'est vrai que c'était des endroits où on trouvait à leur époque facilement des postes de travail sûrs, ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant. Et puis voilà, moi je suis parti dans les métiers complètement manuels. Donc quand je suis sorti de l'école obligatoire, je cherchais déjà un peu un métier ancien. Et puis là, ça a été ma première grosse révolte envers les adultes. Parce que quand je me rendais dans les orientations professionnelles, il y avait tous les dossiers sur des métiers fantastiques. Et puis je demandais pour des stages en forge ou en autre métier de ce type-là. Et chaque fois on me disait « Ah non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas, pas d'artisan ». Puis on me répétait tout ça. Puis je dis « Mais vous avez le dossier, il y a la formation, il y a tout. Ah oui, mais on ne peut rien faire pour ça quoi ».
Vous avez dû vous débrouiller tout seul en quelque sorte.
Ouais, si on veut bien dire. Et puis alors après, bah, ma foi... On m'a dit, voilà, dans votre classe d'école, on vous met des listes avec des places d'apprentissage à disposition. Il vous faut chercher quelque chose dans ces domaines-là. Il fallait trouver quelque chose. Alors, je suis allé comme employé de commerce. J'ai fait 3 ans, puis après, j'ai arrêté parce que je devenais fou dans un bureau. Et puis, je me suis évadé. Donc, j'ai trouvé une place d'apprentissage de forestier bûcheron à la commune de Lutry, où j'ai passé vraiment des très belles années. Et puis après cela, bah, j'ai travaillé essentiellement en entreprise privée, donc en forêt, travaillé 10 ans. Et puis un jour, je commençais de me retourner, je regardais derrière, puis je me disais, ouais, bon, moi j'aime bien la sylviculture, j'adore ça. La Confédération était en train de couper les budgets, donc on nous disait, il y en aura de moins en moins. Et puis les coupes de bois, je regardais, puis je me disais, ouais, bon, les coupes de bois, finalement, on coupe du bois, puis derrière, il n'y a plus rien, quoi. On faisait encore, c'était les dernières coupes rases qu'on faisait, donc hein, derrière, il ne reste plus rien. Puis je me disais, ouais, avec ce bois, j'ai quand même envie de faire quelque chose. Et puis, je suis parti sur une idée. J'avais un grand-oncle Charon, dans le canton de Vaud, qui avait à l'époque 80 ans.
Voilà, quand même, on y vient.
On y vient. Et puis, je me suis approché de lui pour faire une proposition. C'était de venir un ou deux jours chez lui pour me former comme ça, sur le tas. Et puis, il n'avait pas l'envie, pas le courage. Hein. C'est la dernière génération de charrons ont vraiment vécu sur le déclin de leur métier. Donc, pour eux, c'était non, mais il faut oublier, ça ne reviendra plus. Ils étaient vraiment tous très négatifs. Alors, je me suis dit non, moi je vais y arriver, tête de mule. Et puis, j'ai trouvé une place d'apprentissage. Donc, j'ai fait un apprentissage d'ébéniste chez un artisan où on faisait 30% de charronnage sur l'année attelage et voiture automobile aussi.
Alors moi, il y a une seule chose en tête, c'est quand on veut, on peut, mais c'est pas toujours facile.
Voilà, donc ce qui est, moi je me dis des fois, c'est bête, j'ai quand même perdu 10, 15 ans à chercher, puis finalement, je me dis, mais tout ce que j'ai appris me sert. Donc c'est comme ça, et puis il faut continuer à se battre. Ouais, c'est quand même pas tous les jours facile, parce que c'est vrai que revenir avec un métier ancien qui n'existe presque plus, c'est pas évident. Il faut se battre sur des terrains qui sont pas visibles tout de suite. Hein. Par exemple, en dessous de 50 ans, les gens savent plus que c'est un charron. Donc il faut remettre ça dans la tête des gens. Et puis convaincre les autres qui savent ce que c'est, qui ont encore vu ça. Donc, beaucoup de plaisir de venir redécouvrir ce métier ici, que ça se fait encore dans les règles de l'art. Après, il faut convaincre les utilisateurs de me faire confiance ou de nous faire confiance pour mes collègues.